Ça l'enregistre? OK. Alors, pendant que nos petits amis s'en vont en haut, nous, on s'en va dans Éphésiens, au chapitre 2. J'ai donné comme devoir à Christophe de prendre une petite pause dans Éphésiens. Il dit « Lis, relis, relis. » Puis j'ai passé le livre « Assis, marcher, se tenir ». J'ai dit, lis bien Éphésiens avant, puis là, tu vas voir, tu sais, c'est un livre, je veux dire, la parole est inspirée, l'autre, c'est pas inspiré, mais c'est un bon livre qui nous aide, c'est un bon commentaire. Puis c'est une bénédiction, frère. Moi, en tout cas, Éphésiens, là, puis ce livre-là de Watchman Nee, là, ça m'a beaucoup béni. Donc, c'est ça, on va dans le cœur, on peut dire, ben, on n'est pas en plein milieu à proprement parler, de l'Épître, mais on est pas mal dans le cœur du sujet. On va lire les versets 11 à 18, et vous allez voir notre mot pour notre série « Vive à la lumière de la croix ». Je vous rappelle que ce qu'on fait, on prend les Épîtres et on regarde le mot « croix » qui est dans ces différents endroits-là, et on en tire les leçons. Aujourd'hui, ça va être la réconciliation de la croix dans Éphésiens. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix. En détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Quel beau passage, et sans contredit, un passage très puissant par rapport à la croix, et c'est au verset 16 qu'on nous parle de la croix, mais l'ensemble ici nous parle de ces bénéfices de la croix et plus particulièrement la réconciliation de la croix. Et remarquez le point pivot aussi, je vous dirais, il y a un point tournant, et j'ai mis l'accent dans notre passage. C'est où le point tournant selon vous? C'est assez facile parce que... C'est où? Dis-moi le verset. Verset 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, hein, verset 11 et 12, c'est triste, c'est sans Dieu et tout ça. Mais maintenant, en Jésus-Christ, donc ce renversement... Christ qui amène la réconciliation, non seulement de l'homme avec Dieu, mais aussi des hommes entre eux autres, parce qu'ici, il parle des Juifs, des païens, qui étaient très, très... il y avait beaucoup d'animosité les uns envers les autres, et c'était réciproque, là, les uns avaient toutes sortes de raisons de ne pas aimer les autres, puis les autres se reviraient, puis disaient, ouais, nous autres aussi, on ne vous aime pas, donc ils se regardaient tous les deux, puis ils se faisaient des grimaces, là, c'était pas mal ça. Mais Christ a tout changé ça par la croix. Par la croix, on voit au verset 16, hein, les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps. Donc, réconcilier avec Dieu, puis l'un et l'autre en un seul corps. Dieu a tout mis ça ensemble. La grosse chicane, il a dit, je vais tout vous mettre ensemble, puis vous allez être ensemble réconciliés par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et donc, j'aimerais considérer avec vous ces versets-là, spécialement les versets 13 à 15, avec toutes les implications qu'il peut y avoir par rapport à cette vérité de la réconciliation de la croix. Donc, ce qu'on va voir, c'est trois fruits de cette réconciliation. D'abord, au verset 13, le rapprochement produit par la croix. Le rapprochement produit par la croix. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le rapprochement produit par la croix. Et ici, ça dit le rapprochement, ça dit rapproché par le sang de Christ. Dans Colossiens 1:20, 1, 20, ça nous parle du sang de la croix. Donc, il y a quelque chose ici qui est synonyme. On parle de la croix, du sang, le sang de la croix. Ça nous parle du sacrifice de Christ, son œuvre. OK? Donc, le rapprochement produit par la croix, le sang de la croix. Et en passant, je peux vous le savoir, mais on appelle Éphésiens et Colossiens. Comment on les appelle, Éphésiens et Colossiens, quand on en parle ensemble? Les épîtres jumelles. OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont twin epistles. Tu as jamais entendu ça? Non? Ah! Eh bien, moi, j'ai entendu ça assez souvent dans les études-là. Les épîtres jumelles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thèmes qui se relient, qui se recoupent. Tu sais, par exemple, mettons, tu sais, dans Éphésiens 5, quand ça parle le mari, la femme, les enfants, puis tout ça, là, OK? Bien, il y a l'équivalent en Colossiens, mais en plus condensé. Quand ça parle d'être dépouillé, revêtir, ça parle aussi dans Colossiens. Fait qu'il y a des choses comme ça qui sont parallèles l'un avec l'autre. C'est pour ça qu'on dit les épîtres jumelles. Bon, pas exactement jumelles, là. Mais, tu sais, puis aussi, dans Éphésiens, Christ est la tête de l'Église, puis on voit aussi ce concept-là dans Colossiens, mais avec sa prééminence. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en parallèle les uns avec les autres. Mais, évidemment, Éphésiens étant plus long et plus détaillé, il y a beaucoup plus de... l'enseignement est beaucoup plus développé. Donc, ça, c'est épître jumelles, c'est ça. Bon, maintenant, parlons le sang de la croix versus la croix. Bien, le sang, c'est le prix payé pour le salut. C'est le prix du rachat. Dieu a donné sa vie. OK? La vie est dans le sang. Donc, quand on parle du sang de Christ, c'est le prix. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. C'est le prix payé pour notre rachat. La croix, c'est le moyen, si vous voulez. Il a été sur la croix. Il a été jusqu'à l'obéissance de la croix. C'est le moyen par lequel il nous a rachetés. Le prix, le moyen, mais les deux ont un même but. C'est pour restaurer notre relation avec Dieu. C'est pour nous rapprocher de Dieu, nous qui étions éloignés. On n'était pas juste éloignés les uns des autres. Le pire, c'est qu'on était éloignés de Dieu. Ça, c'était le plus gros problème qu'on avait. Et l'autre était une conséquence de cela. Et donc, restaurer notre relation avec lui, les uns avec les autres, nous qui étions loin, il nous a rendus prêts. On était éloignés, il nous a rapprochés par la croix, par le sang de la croix. Et... là-dessus, je voudrais juste développer un petit point. Non seulement le sang de la croix nous procure une proximité, qui nous rapproche, on peut dire physiquement même les uns des autres, hein, tant qu'on ne serait jamais vu puis jamais parlé, OK? Évidemment, avec Dieu, on ne peut pas dire physiquement parce que Dieu est esprit, là, mais il vit dans nos cœurs, OK? C'est beaucoup plus proche que ce que n'importe qui aurait pu imaginer dans l'histoire de la rédemption. Mais j'aimerais parler encore plus au-delà de la proximité, j'aimerais pousser les choses jusqu'à l'intimité, c'est-à-dire être proche relationnellement, d'une manière complète, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Hein? L'intimité, c'est vraiment quand on est proche avec quelqu'un, on se sent libre d'être vulnérable et de dire des choses qu'on ne dirait pas. T'sais, on dit j'ai un ami intime, là, c'est quelqu'un qu'on est à livre ouvert, puis on se sent en sécurité de parler. Ben avec Dieu, c'est ça. C'est pas juste, t'es proche, puis... Mais tu sais, parle pas trop, puis t'es proche, mais... Non, c'est plus que juste être proche. C'est d'être intime. C'est une connexion. Il y a une réciprocité qui est là. Et les Anglais, je sais pas si vous avez entendu ça, mais moi, j'ai entendu le jeu de mots, intimacy. Intimacy? Intimacy. OK? Autrement dit, l'intimité, tu vois en moi. C'est-à-dire, je suis à livre ouvert. Into me see. Tout le monde l'a pogné, là? OK. Bon. C'est un jeu de mots, mais hein, je ne dis pas que c'est quelque chose de courant, mais moi, j'ai déjà lu ça dans un livre, tu sais, puis je ne dis pas que c'est une expression courante que tout le monde utilise dans la rue, là. Mais le jeu de mots marche en anglais, disons. Et donc, c'est quoi? Une relation ouverte, transparente, parce que la peur du rejet a été enlevée. C'est ça l'idée du rapprochement qui amène encore plus fort une intimité. La peur du rejet a été enlevée. Avec Dieu, de façon parfaite, l'amour parfait bannit la crainte. J'ai pas peur d'être rejeté par Dieu, je suis accepté dans le bien-aimé. Ça, c'est clair, vous lisez Éphésiens, c'est parfait comme acceptation. OK? Donc, c'est parfait avec Dieu et... Avec les humains, c'est progressif. On l'apprend. Et ça, c'est une belle chose à apprendre dans la vie chrétienne, mais c'est une chose difficile. Difficile dans le sens... Non, attends, je reprends. Impossible à la chair. Pour vraiment le vivre, entre frères et sœurs dans le Seigneur, c'est par l'Esprit. Et là, j'aimerais qu'on développe ça, OK? Parce que, d'abord, là, quand je dis progrès, dans 1 Thessaloniciens, Ça dit au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, progresser dans l'idée de notre acceptation mutuelle. Bon, avec Dieu, l'acceptation, ça se vit simplement en apprenant à vivre à la lumière de la croix. La croix me déclare, t'es parfaitement accepté, t'es dans le bien-aimé. Ça peut pas être mieux que c'est là, c'est parfait, OK? Puis, avec nos frères et sœurs, on parle fraternellement. Ça s'apprend. Et ça se vit aussi, là. Je veux dire, on peut vivre dans la lumière de cette acceptation-là mutuelle. Mais il y a une certaine perspective, évidemment, qui va être différente. Parce qu'avec Dieu, on part de la perfection. Avec nos frères et sœurs, ils nous incluent, évidemment, il n'y a pas la perfection. OK? C'est ça, pour ça que je dis qu'il y a un progrès, ça s'apprend. On ne part pas du point de départ qu'on est accepté parfaitement par l'autre. Parce que ça serait naïf, ça serait même mensonger, parce que on a toutes des affaires, on a tous à apprendre, OK? Puis, savez-vous quoi? Dans les relations humaines, évidemment, il y a beaucoup de rejets, on en parlait tantôt. Fait partie de la chute, du fait que notre monde n'est pas comme Dieu l'avait conçu au point de départ. Il y a du rejet relationnel, il y a toutes sortes de formes de rejet. Et évidemment, le monde chrétien n'en est pas exempt. On vit du rejet des fois entre églises, dans une église, entre frères et sœurs, dans une famille chrétienne. Et pourquoi? Ben, parce que la chair est encore là et que, ben c'est ça, personne n'est parvenu. Donc, c'est quoi ça veut dire d'apprendre à vivre le rapprochement de la croix entre frères et sœurs? Bien, c'est de constamment ramener cette croix au centre des relations. Et je vous l'explique. Et je pense qu'il y a des éléments que j'ai déjà expliqués, mais ça va aider à nous rafraîchir la mémoire. D'abord, plus une relation est proche et intime, un couple, des parents avec leurs enfants, une église qui se tient serrée, OK? Plus la proximité est forte, OK? Puis qu'il y a une intimité qui est vécue, plus c'est vital. Et là, quand je dis vital, c'est question de vie ou de mort, OK? C'est vital que la chair ne réponde pas à la chair. Parce que quand la chair répond à la chair, on invite la mort. Et c'est quoi la mort? C'est la séparation. Et c'est la peur, c'est le rejet, et c'est pas... Puis là, ça, c'est un frein, et antagoniste à l'intimité. Quand on a peur, la dernière chose qu'on veut faire, c'est se mettre en position de vulnérabilité. Parce qu'on... OK, puis souvent, on peut y avoir goûté, on s'est ouvert, puis là, on a été blessé, puis bon. Même tantôt, je me rappelle plus avec qui on disait, il parlait de, à partir d'une blessure. Oui, tantôt, quand on finissait de manger. C'est ça, ça arrive. Tu sais, quelqu'un de blessé, souvent, il va devenir blessant parce qu'il parle à partir de ça, OK? Ça, c'est la chair qui répond à la chair. Quelqu'un nous a fait du mal, bien, si on répond avec notre chair, avec ce que nous, on pense, ce que nous, on veut, OK? Ça ne fait que rempirer les choses. On invite la mort. Mais pas la mort de la croix, la mort de la chair. Et ça ne peut pas produire du bon fruit. Et c'est quoi qu'on fait quand on répond à la chair? On troque la croix pour la loi. On troque la vie pour la mort. On troque la foi par le soi. C'est un mauvais échange, OK? OK, je vous donne un exemple. Chicane de couple. Je dis ça, ça peut arriver. Tu sais, les habituels, jamais puis toujours, là. Tu fais jamais rien de correct, t'es toujours de même, OK? Puis c'est pas exclusif au couple, ça peut arriver dans... OK, bon, vous connaissez la rengaine. Pas que vous ayez expérimenté, mais vous avez entendu parler par le voisin, OK? OK? Juste une affaire de même, puis j'en parlais la semaine passée. Tu sais, on dit la chair, puis tout ça, puis... Pourquoi ne pas inviter Dieu en plein milieu de la situation? Dieu, je sais que là, ma chère, là, elle a une réponse à donner, la monnaie de sa pièce, puis toujours, puis jamais, et tout ça. Penses-tu que c'est une bonne idée qu'on invite Dieu dans notre discussion? Puis de... On peut prendre une pause, là, de juste parler pour juste continuer à faire du mal. Dieu, moi, je veux t'inviter dans la situation. Puis là, regardez pas l'autre. Moi, j'invite Dieu dans la situation, puis toi, t'es charmé. Tu sais, ça, c'est pas une bonne idée, là. Mais juste si vous vous fermez, puis vous allez tranquille à un endroit, puis vous invitez Dieu là-dedans, puis vous dites, OK, Dieu, je veux désamorcer cette bombe, là. Et déjà, je pense que là, ça va vraiment aider les choses à aller beaucoup mieux. Un autre exemple, des fois, dans la tension, dans les conflits, il y a une certaine escalade. Ça, des fois, ça l'escalade vite. Là. On passe de 1 à 100, puis à 1000. Ouf! C'est ça, la chair qui répond à la chair, OK? Je sais que c'est tout théorique pour vous autres, là, mais essayez de comprendre un peu là, ce que je vous explique. Donc, au lieu de ces réactions d'escalade qui amènent plus de friction, de détérioration relationnelle mutuelle, OK, Dieu, ouais, je t'invite, c'est une bonne idée. Dieu, c'est quoi que tu as pour moi là-dedans? Parce que souvent, OK, là, je vous amène. Quand on dit Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi? C'est pas être un. Oh, moi, je pensais. Non, non. Là, c'est. Dans le fond, on invite Dieu aussi. Dieu, c'est quoi que tu veux me dire à moi? Là, on arrête de concentrer sur l'autre qui est tout pas correct puis que les problèmes, c'est de sa faute. Là. Puis là, on demande à Dieu de montrer pour moi, pas Dieu. Puis on peut dire, là, vous avez le droit, là, mais ça, c'est Dieu qui va s'en occuper. Montre donc à l'autre aussi. Vous avez le droit de le dire, puis c'est Dieu qui va s'en occuper. Parce que c'est vrai que Dieu a quelque chose pour chacun là-dedans, mais moi, pour ma part, là, c'est à moi que Dieu va parler. Dieu va pas me parler à la place de l'autre. Avez-vous déjà une commission de Dieu? Dieu me dit, peux-tu aller dire ça? Ça peut arriver, mais dans une chicane, des fois, c'est plus notre chance. Dieu me fait dire, là. Ouais, c'est ça. Dieu me fait dire quand on t'entend. Hey, ouais. Ça, c'est une belle tactique, là. Non, vous comprenez, mais j'essaie de vous expliquer simplement comment le rapprochement de la croix, c'est que le soi est sur la croix. Il n'est pas dans l'équation. C'est Dieu qu'on met. Dieu, je t'invite. C'est toi que je veux, là. Je veux vivre à la lumière de cette croix. OK? C'est un peu malhabile, là, mais je vous laisse faire les liens et tout ça. Puis évidemment, merci Saint-Esprit qui est le vrai enseignant ici. Mais. C'est pas pour multiplier les exemples, mais c'est vraiment avoir l'idée de constater que nous avons un choix délibéré de passer du centre d'attention, soi ou Christ. Nous avons le choix. Et c'est ça l'idée du rapprochement produit par la croix. Christ rapproche, le soi nous sépare. Et c'est simple et c'est libérateur. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir regretté d'avoir cherché Dieu dans le milieu des situations, puis de m'arrêter et de dire « Dieu, je veux t'inviter là-dedans. Dieu, c'est quoi que tu as pour moi là-dedans? » Je sais pas pour vous, là, mais je vous dis, Dieu est fidèle, il est bon. Ça va complètement changer de la dynamique. Vous savez pourquoi? De toute façon, si vous essayez d'autres façons, ça ne règle pas les problèmes. Ça ne va peut-être pas tout régler comme on aurait voulu si on fait juste s'arrêter de même, mais ça va être beaucoup mieux que si on laissait la chair répondre à la chair. OK? Premier point, le rapprochement produit par la croix, verset 13. Maintenant, la paix produite par la croix, verset 14. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. La paix produite par la croix. Ici, c'est la conséquence un peu, si vous voulez, du premier fruit, là, le rapprochement. C'est la paix, là, c'est une appréciation. Une appréciation mutuelle, c'est la jouissance de l'intimité avec Dieu et avec les autres. C'est pas juste qu'on s'endure la face, on est proche, mais on se parle pas. Non, c'est on est proche, puis on est content. Puis on s'apprécie, puis il y a une plénitude à cette relation. C'est ça, la paix. La paix, c'est l'absence de friction, puis de ce qui nous sépare. C'est une pleine appréhension de ce qu'on a par la grâce de Dieu. OK? Et donc, c'est, si vous voulez, la plénitude des bénéfices des relations restaurées, des relations rédemptrices. Avec Dieu, c'est la pleine appréciation du fait que l'amour parfait bannit la crainte, que je suis en paix, non seulement avec Dieu, mais je jouis de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et d'ailleurs, avec Dieu, c'est tellement ça, c'est tellement un bon passage, parce que vous connaissez, hein, Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » La paix de Dieu, elle arrive, là, lorsqu'on dit « Ok, merci Seigneur, parce que là, moi, je te laisse ça, j'arrête de me battre et de me débattre. Merci que c'est toi qui envoies ça, puis merci que tu as quelque chose avec ça. » Puis là, là, quand on dit « Merci à Dieu de même, puis le merci qui laisse les choses dans les mains de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde, protège, est un soldat à côté de notre cœur, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et avec les autres, remarquez que, parce que là, je parlais avec Dieu, là, la paix avec Dieu, la paix de Dieu. Quand on est sauvé, on a la paix avec Dieu. Puis dans notre marche avec le Seigneur, on a la paix de Dieu. Mais avec autrui, la paix, verset 14 ici, ça dit « Il est notre paix ». Remarquez que la signification des mots ici est importante. Ça ne dit pas juste « Il nous procure la paix » ou ça ne dit pas juste « Il nous aide à être en paix ». OK? Non, ça dit « Il est notre paix ». Donc, ce n'est pas une action conditionnelle, OK? Là, si je fais ça, non, c'est un état de fait. Jésus, il est notre paix. Tu sais, on dit souvent, là, on n'a pas besoin de créer l'unité de l'esprit. Elle est déjà là, il faut la conserver. Bien, on n'a pas besoin d'essayer d'être en paix les uns avec les autres. Jésus est notre paix. Quand on a Jésus, on est en paix. Quand on n'est pas en paix, c'est parce qu'on enlève Jésus de l'équation. Fait que le problème, c'est pas... OK, le problème, c'est la présence de celui qui est notre paix versus l'absence. Fait, comprenez-vous, c'est pas... Là, je vais essayer de faire de quoi pour être en paix. Non, non, t'as pas besoin de te débattre. Laisse la place à Jésus. Laisse-le régner, laisse-le diriger, confie-toi en lui. Il est notre paix. OK? Ça aussi, en passant, ça enlève pas mal de fardeaux, c'est beau, parce qu'il faut se débattre pour essayer de... Hey, Dieu, aide-moi à procurer la paix, puis ça... Mais si Jésus est ma paix, il dit, OK, vu que t'es ma paix, vas-y, Seigneur, je te fais confiance. Je m'abandonne à toi là-dedans. Puis, vous allez voir, ça enlève vraiment le fardeau parce que Dieu va se montrer comme il dit qu'il est, comme étant notre paix. C'est un état de fait. C'est ce qu'il est pour chacun de nous et ce qu'il est aussi pour entre nous. Et comme je disais, c'est vraiment un parallèle aussi avec, tu sais, conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais regarde, ça va-tu ensemble? Vous pensez unité de l'esprit, lien de la paix, c'est tout un tout ensemble. Où est-ce qu'on conserve ce que Dieu nous a donné, puis Dieu nous a donné Jésus, il est notre trésor, il est notre pain, il est notre unité. On fait simplement garder celui qui est tout ça au centre, on conserve ça, on garde précieusement ce que Dieu nous a donné, on y fait attention. C'est précieux, Dieu s'est donné à nous. D'ailleurs, quand on n'aura pas du Seigneur, n'est-ce pas qu'on se rappelle, Jésus est notre pain, il est notre pain avec Dieu, il est notre pain avec Dieu. On a un même pain, on boit la même coupe, hein, la coupe de l'Alliance, on a été racheté par le même sang précieux de l'agneau. Donc, pour dire les choses autrement, avant de passer au prochain point, on n'a pas besoin de porter le fardeau, d'essayer d'œuvrer pour produire la paix. Nous l'avons déjà dans la personne de Jésus-Christ. Autrement dit, c'est pas quoi faire pour avoir la paix, comment, où aller. Non, c'est qui. C'est notre fameux qui, Christophe. On est boqué là-dessus, hein? Mais moi, je ne déboque pas parce que c'est merveilleux quand on l'a trouvé. Amen. Yes. Et n'est-ce pas une triste réalité que tellement de conflits, de problèmes relationnels, de froideur, d'indifférence, d'amertume, de rejet des fois qui semblent irréconciliables, sont causés parce que nous ne sommes pas concentrés sur celui qui est notre paix. Ou pour le dire autrement, on est centré sur le mauvais qui. Ah là, lui, là, elle, là. Là, on regarde le mauvais qui. C'est un qui, mais c'est pas le bon. C'est pas le qui majuscule. C'est un petit Q minuscule. J'ai manqué faire des lapsus qui auraient pu être douteux, là. Chance que Gabriel n'est pas là, parce que là, il me l'aurait souligné. Puis je pense que, si vous réécoutez l'enregistrement, j'ai sûrement dit un mauvais mot là-dedans, là, sans trop faire exprès, là. Mais bon, merci pour la grâce que vous m'offrez là-dedans. Regardez à la mauvaise personne. On regarde à l'autre. Puis, c'est pas que... Il y a l'indifférence. On peut dire, j'ignore l'autre, puis je m'en occupe pas. C'est pas mieux. Parce que là, c'est pas plus regarder à Jésus. Dans le fond, qu'on regarde trop à l'autre ou qu'on veut l'ignorer, tant qu'on ne regarde pas à Jésus, il n'y a pas de paix. Parce qu'il est notre paix. Et pourquoi il est notre paix? Il est la provision de notre paix. Toute la paix dont on a besoin, nous l'avons en Jésus. Vous voulez de la paix? Ben prenez Jésus, il y a toute la paix dont vous avez besoin. C'est aussi que ça veut dire. C'est pas, hey, Dieu a un réservoir de paix, puis là, non, non. Dieu te donne Jésus, tu as toute la paix de l'univers qui est accessible à toi. Tu as Jésus, tu as toute la paix. Il est notre paix. Et notre appréciation de cette paix qui surpasse toute intelligence, ben c'est directement relié à notre relation à Jésus qui est notre paix. Montrez-moi quelqu'un qui n'est pas en paix, qui ne jouit pas de cette paix. Ben, sa relation avec Dieu, avec Jésus, c'est refroidi, distancé, ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça tellement, tu sais, on dit se nourrir du pain de vie de Jésus, notre paix. C'est tellement fondamental pour notre cœur, pour notre relation avec Dieu, mais aussi pour les autres. Celui qui recherche la paix sème la paix. Christ est ma paix. Et lorsque j'ai Christ, je vais devenir une personne pacifique, une personne de paix qui sème la paix. Pourquoi? Parce que ça va être le fruit de ma relation avec Jésus qui est ma paix. Et là, le dernier point, les deux, c'est tout beau, là, le rapprochement, la paix. Le troisième, êtes-vous prêts? L'anéantissement que produit la croix. Ben oui, c'est dans le texte. Regardez, on est rendu au verset 15. C'est le troisième fruit. Ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Les communistes peuvent bien aller se rhabiller. Jésus a fait l'homme nouveau. Un seul homme nouveau en établissant, encore notre mot, la paix. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il y a les deux côtés de la médaille. Moi, j'ai intitulé, je ne peux pas avoir un point, je ne suis pas un... C'est qui donc qui avait des titres là, tellement longs? Les puritains. Genre, le titre avait trois lignes, là, pour de vrai, là, c'était pas des faces. Là. Puis le livre avait 800 pages, là. Puis ça, c'était le début de l'introduction. Là, c'était... Ben non, c'était fou. Là, c'était... Puis des fois, c'était sur un verset, là, 800 pages. Non, non, il était complètement flayé. Là. En tout cas, l'anéantissement produit par la croix, j'aime ce verset-là parce qu'il y a les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire... Il y a le côté anéantissement. Okay? C'est un bénéfice de la croix, c'est-à-dire ça anéantit ce qui nous rendait esclaves. La loi, les ordonnances. Okay? Parce qu'on sait que la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Parce que tu dis à quelqu'un, fais-le pas, il a le goût de le faire. Ça, la loi manifeste la nature pécheresse pour que les gens, pour conduire à Christ. Donc, il y a le côté destruction, mais aussi le côté création, c'est-à-dire il a voulu créer en lui-même. Puis là, l'homme nouveau. Vous savez que les communistes, ben plus juste les communistes, là, ça c'est plus de notre temps, mais les Grecs, les grands philosophes, les grands penseurs de ce siècle ont toujours voulu l'homme nouveau. L'homme renouvelé, le nouvel âge aussi est là-dedans. Puis... Mais Jésus, lui, il n'a pas manqué. Et Jésus, c'est le seul qui a fait le vrai homme nouveau parce qu'il est le deuxième homme. Puis nous sommes sa progéniture spirituelle. Il est le premier-né de plusieurs. Nous, on est... ses enfants spirituels, OK? Et donc, l'homme nouveau qu'il a créé lui-même. Et de là, on a une loi spirituelle. Tout ce qu'on veut bâtir pour Dieu doit forcément être précédé par la destruction de ce qui n'est pas de Dieu. Puis regardez ça, là on pourrait multiplier les exemples bibliques. Tu sais, avant David, c'était qui? C'était Saül, OK? Puis avant Isaac, c'était qui? Ishmaël, c'est ça. Puis bon, on pourrait donner plein d'exemples. Puis ça dit, là, quand Paul parle de ça dans Galates, il dit le physique, le charnel, comment qu'il dit? En tout cas, dans Galates 4, il dit que c'est le charnel, le physique qui vient en premier, le spirituel vient ensuite. OK? D'ailleurs, c'est ça aussi avec Adam, le premier Adam, puis le deuxième, parce que ça dit dans Corinthiens. Donc, la loi spirituelle, c'est ça. Tu vas avoir quelque chose de nouveau qui est de Dieu, il faut que l'ancien, qui n'est pas de Dieu, soit détruit. L'un surpasse et supplante l'autre. Et n'est-ce pas ce qu'on voit dans Romains chapitre 6? Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Pour être cet homme nouveau que Dieu a fait, il fallait que le vieil homme soit crucifié. Ça, c'est important là, quand on parle de notre mort avec Christ, là, c'est que le fondement sur lequel on peut être une nouvelle créature, il fallait qu'on meure avec Christ avant. Il ne pouvait pas avoir de nouveau, de nouvelles créatures. OK? On prend les noms de nouveau Dave, de nouveau Christophe. Si d'abord, Dave ne mourait pas avec Christ, si, OK? Un doit précéder l'autre obligatoirement. OK? C'est ça l'idée de l'anéantissement. La croix détruit ce qui n'est pas de Dieu. Et donc, j'ai comme coupé là, Romains 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, le fait qu'on est mort avec Christ, c'est complet. C'est une fois pour toutes. Comme on est né de nouveau, ben, on est mort avec Christ, une fois pour toutes. Le vieil homme a été crucifié. Et ça, c'est la base qui a donné le coup fatal, le katargeo, à la puissance de la chair. Ou pour le prendre ici dans les mots, le corps du péché. Okay? Le corps du péché, c'est ce qui reste encore de notre héritage adamique. Là. On n'est plus en Adam, on est rendu en Jésus, mais on a encore le péché dans nos membres. On a encore la chair. C'est pour ça, tantôt que je parlais que si on répond à la chair par la chair, ben, ça va donner la mort. Ben, c'est ça. Dieu s'est occupé de nous, de notre nature pécheresse. Il nous a donné une nouvelle nature, mais on a encore une chair. Mais elle n'est plus dominante, elle n'est plus celle qui dirige notre vie, parce que maintenant, on a le Saint-Esprit qui est là. Puis on a le choix maintenant. Avant, on n'avait pas le choix. On était mort dans nos offenses et nos péchés. Maintenant, étant vivant en Jésus-Christ, on a le choix. Faut-tu choisir la voie de ma chair ou la voie de Christ? La voie du soi ou la voie de Christ qui vit en moi? Donc, Dieu, pour sa part, il a tout fait ce qu'il avait à faire. Puis, on dit, ouais, il n'a pas fini. Pourquoi il m'a laissé une chair? Ça, c'est pour s'assurer qu'on soit dépendant et qu'il ait toute la gloire. Que quand que ça va bien puis qu'on a la liberté, qu'on dise, waouh, Dieu, t'es merveilleux. Parce que sinon, on dirait, hey, je suis donc bien merveilleux. Gloire à moi. J'ai réussi à vraiment m'en sortir. Puis, parce que ça serait ça qui arriverait si on aurait la capacité en nous-mêmes. Mais vu qu'on n'a aucune capacité en nous-mêmes, que notre force, c'est dans la mort, c'est dans s'abaisser, c'est dans se soumettre à notre Dieu, ben là, Dieu a la gloire, parce que là, c'est quelqu'un de faible, qui n'a rien, puis Dieu est tout. OK? Donc, toute cette loi-là spirituelle, vraiment, va jusque dans notre vie quotidienne. Ou juste pour le mettre dans d'autres mots, là, OK? Parce que là, on parle de mort, de vie. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, ça parle de renverser. Hein, nous renversons les forteresses. Ben, c'est ça. Dieu renverse, anéantit ce qui n'est pas de lui dans nos vies, afin de bâtir ce qui est de lui, ce qui est fructueux. Et ça, ben, ça ne peut que porter du bon fruit dans la vie qui sont ainsi exercés. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu qui fait ça et rien d'autre. C'est pas l'ingéniosité humaine, les efforts humains, mais c'est la grâce de Dieu. Et je vais terminer sur cette note cet après-midi. Sur quoi sont basées mes relations? Sur le roc inébranlable de Christ ou sur le fondement trompant, ou on peut dire le sable mouvant qui peut être renversé? L'inébranlable ou le temporaire? Le roc de Jésus-Christ, sa grâce ou le sable mouvant de la loi des œuvres de la chair? Et là, je vais vous dire de quoi qui peut peut-être un peu vous surprendre. J'aime ça, une conclusion de même, là, ça nous réveille quand on est sur le bord de s'endormir. As-tu besoin de commencer par laisser Dieu opérer l'anéantissement dans ta vie? Ben, bonne nouvelle, c'est salutaire, c'est un sujet de joie. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Dieu va faire de quoi de bon. Donc, quand Dieu là, il veut opérer son anéantissement, quand il veut détruire, on dit « Merci Seigneur, tu détruis ce qui me détruit, tu détruis ce qui me tire vers le bas, tu détruis ce qui est de la mort parce que tu veux instaurer ta vie. » C'est pour ça qu'on dit merci, c'est pour ça qu'on dit à Dieu, on rend des actions de grâce, puis c'est pour ça qu'on a la paix, parce qu'on dit « Dieu, c'est tout bon. » Tu as éclairé mon esprit. Tu n'es pas en train de me faire du mal. Tu n'es pas en train de rendre ma vie misérable. Tu me libères de ma misère. Tu me libères de moi-même. Donc, bonne nouvelle, quand Dieu commence par ça, opérer son anéantissement. Non, ce n'est pas grave à la chair, mais qu'est-ce qui arrive? C'est là qu'on voit qu'on peut tout par Christ qui nous fortifie. C'est là qu'on expérimente Christ, notre vie. C'est là que la foi devient vraiment, c'est plus que juste une théorie, là c'est ce qu'on vit. Puis là, on voit, ah, cette mort qui agit en moi produit la vie de Christ. Une autre question, est-ce que Dieu t'a contraint à un état, puis là je parlais peut-être plus de façon ponctuelle, mais est-ce que Dieu t'a contraint à un état perpétuel, cyclique et répétitif d'anéantissement? Oui, mais c'est super, c'est salutaire, c'est un sujet de grande joie. Pourquoi? Parce que c'est le secret de la vie abondante, c'est le secret de laisser Dieu vivre, parce que sinon, étant là à comprendre, étant facilement facile de retomber sur le pilote automatique, si Dieu ne faisait pas ça, ça serait nous qui prendrions la place. Donc, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui s'assure qu'on vive les vérités de la parole de Dieu, puis de voir cette réalité que, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort au péché, je suis vivant pour Dieu. Et donc, là-dedans, moi, je veux dire merci Seigneur, toutes tes voies sont bonnes, t'es bon, t'es fidèle, et je veux embrasser complètement cette réconciliation de la croix. Il y a un prix à payer, c'est pas toujours agréable, mais même le prix à payer est bon parce que ça l'anéantit ce qui nous anéantit, ça détruit ce qui nous détruit, ça se débarrasse de ce qui nous fait du mal. Pourquoi? Pour qu'on puisse vivre la plénitude, la beauté, la splendeur de sa vie. De Jésus, notre trésor, Jésus, notre paix, Jésus, notre trésor de paix. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que on avait un texte tellement précieux sous les yeux. Et merci, Seigneur, pour les versets qu'on a considérés. Où est-ce qu'on voit comment tu es absolument tout ce dont on a besoin? Et merci, Seigneur, que non seulement tu nous as réconciliés avec toi, ici, chacun de tes enfants, mais tu nous as aussi réconciliés les uns avec les autres en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Quelle œuvre extraordinaire! Tu as détruit pour créer ce qui est bon, ce qui est vivant, ce qui porte du fruit. À toi soit la gloire, Seigneur. Oh, qu'on soit renouvelé dans notre intelligence, qu'on ne voit pas ces choses avec des yeux de chair, qui voit juste le mal du moment, qui voit juste le désagrément, mais que par l'Esprit, on puisse voir que, oui, tu détruis ce qui nous détruit, tu anéantis ce qui nous anéantit. Seigneur, tu es vraiment bon dans toutes tes voies. Merci pour l'épreuve de la foi. Et Seigneur, avec ce qu'on a vu au début du message, aide-nous dans nos relations mutuelles, avoir cette sagesse qui est en haut, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Seigneur, on ne veut pas répondre à la chair par la chair. On y a goûté trop souvent, ça ne sert à rien. Ça ne produit que la mort. Donc, Seigneur, on t'invoque de continuer de nous apprendre les voies de l'Esprit, à répondre à la chair par l'Esprit. Même si on n'a pas le résultat immédiat, même si on n'a pas raison, même si on ne gagne pas l'argument, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que toi, Seigneur, tu te manifestes. Tant mieux si on prend notre trou, tant mieux si on n'est plus celui à l'avant-plan, celle qui a eu le dernier mot. Parce que c'est pas ça du tout qui est important, c'est toi, Seigneur. Donc, merci de nous apprendre tes voies. On veut se soumettre à toi, Seigneur. D'avance, on dit oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Merci pour ce temps, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.